Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Avec la campagne de vaccination solidement amorcée, l'espoir d'un retour à la normale se fait de plus en plus fort. Il y en a même qui dressent un parallèle avec les folles années 1920 qui avaient succédé à une Première Guerre mondiale et une épidémie de grippe espagnole particulièrement meurtrière. Maintenant, est-il vraiment raisonnable de croire que l'après-Covid sera marqué par une libération, une créativité, une croissance économique débridée et des affrontements idéologiques également comme il y a un siècle? Tout cela avec mon chroniqueur Benjamin Boivin qui est par ailleurs candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Benjamin, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, vous allez bien?
Oui, vous?
Raisonnablement, oui.
Ça, c'est un mot qui vous caractérise bien, raisonnable. Justement, est-il raisonnable de faire un parallèle entre ce qui s'est passé les années 20, donc il y a un siècle, et nos années 20 à nous au 21e siècle? C'est très tentant de voir que, bah, après une crise, la vie a été diminuée ou sursollicitée, et là, maintenant, cette fois-ci, elle va éclore, exploser dans tous les sens, créativité, littéraire, musique, enfin, j'en passe, et des meilleurs. Êtes-vous de cette tendance-là? Vous pensez qu'il y a vraiment un parallèle ou il y a quand même une distinction à faire?
Ben, l'analogie, je ne sais pas si elle est raisonnable, mais je sais qu'elle est tentante. Puis elle est intéressante, oui, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, oui, ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Vous avez mentionné certains éléments de ça, mais dans les dernières années, à partir du milieu des années 2010, on a de plus en plus entendu cette comparaison entre l'expérience politique et sociale que nous vivons et celle, oui, de l'entre-deux-guerres, en particulier sur la base de la question de la polarisation politique. On a, mm-hmm, beaucoup fait la comparaison, par exemple, entre la polarisation politique aux États-Unis, entre la alt-right et puis certains mouvements plus radicaux à gauche. Et puis, oui, ce qui s'est passé en Allemagne dans l'entre-deux-guerres sous la République de Weimar, des confrontations dans les rues entre des fascistes et puis les communistes. Ah, puis oui, cette comparaison-là, ben, certains l'ont fait, puis certains l'ont ridiculisé. Mais chose certaine, c'est un imaginaire qui pénètre notre culture. Et puis là, avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19, qu'on a, mm-hmm, beaucoup comparé à la pandémie de grippe espagnole qui a succédé, oui, à la Première Guerre mondiale, mais c'est certain, mm-hmm, qu'on peut être tenté de se demander de quelle manière, finalement, est-ce que la culture va se remettre après une expérience traumatisante comme celle-là.
Il y a quand même une chose, Benjamin Boivin. La Première Guerre mondiale dure 4 ans, elle est circonscrite dans le temps. Il y a eu des millions d'hommes morts. On pensait d'ailleurs que ce serait une guerre classique comme les autres guerres de l'ancienne Europe. Pas du tout. C'est une boucherie de masse. Et ensuite arrivent les 50 millions de morts de la grippe espagnole. Je dis 50 millions de mémoire. Et d'une grippe peut-être plus... Il n'y a pas un début et une fin officielle à une grippe, mais il peut y en avoir une pour une guerre. Il me semble que c'est infiniment plus lourd que la pandémie qu'on a pu avoir.
Ah, ben c'est certain.
Et qu'on a encore, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est certain que ce sont des expériences tout à fait différentes. Après tout, la Première Guerre mondiale, comme vous l'avez dit, là, ça a avalé toutes les énergies, toutes les puissances, toutes les ressources d'une civilisation entière pendant plusieurs années.
Exact.
On a su quand la guerre a commencé, on a su quand elle a fini, et puis on a aussi remarqué, là, dans le passage de la Première Guerre mondiale, le passage d'un état de civilisation à un autre, parce que le monde, mm-hmm, européen tel qu'il existait du début du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle était un monde complètement différent de celui qui est émergé au sortir de la Première Guerre mondiale. Et je crois que l'analogie entre la pandémie de COVID-19 telle que nous la vivons maintenant et cette guerre-là, ben c'est forcément une hyperbole parce qu'après tout, la culture n'est pas si profondément transformée. Mais de quelle manière est-ce que l'expérience un peu difficile de la pandémie que nous vivons, mm-hmm, en Occident, qui est surtout une expérience de l'isolement, de la solitude, de la virtualisation de l'expérience humaine, de quelle manière, mm-hmm, est-ce que ces expériences-là vont se traduire dans la culture? Eh bien là, l'analogie elle devient un peu plus intéressante parce qu'après tout, la culture dans les années 20, ben, c'est une culture tout à fait nouvelle. Et puis peut-être aurons-nous dans les années 2020 aussi une culture changée.
Changer, je reviens encore une fois à la nature du traumatisme actuel, Benjamin Boivin, pour mieux circonscrire la nature du changement. La pandémie qu'on est en train de vivre encore maintenant aura mis nos vies entre parenthèses, surtout. Elle aura sursollicité le personnel de santé, par exemple. Certaines catégories socioprofessionnelles auront été sursollicitées. On a parlé du front de la pandémie, beaucoup de gens sont morts là-dedans, mais ça n'avait pas la même radicalité qu'une guerre. Je vois mal une culture basculer comme elle a pu basculer dans les années 20. J'ai l'impression d'avoir une grande parenthèse, un endormissement plutôt qu'un cataclysme.
Ben, c'est une manière intéressante de présenter les choses. Après tout, c'est vrai qu'on a beaucoup présenté la pandémie en des termes militaires. C'est pas rare qu'on le fait. On le fait parfois avec la politique. On va parler du combat de nos vies. On va décrire les gens qui travaillent dans le milieu de santé comme étant des figures héroïques. Puis après tout, d'une certaine manière, elles le sont. Mais c'est certain que l'expérience authentique de la guerre, aussi détestable, tragique et nocive qu'elle soit, transforme une culture plus profondément, transforme aussi un individu plus profondément. Là, après tout, ceux qui ont fait les tranchées, c'est des gens qui ont fait des expériences existentielles de transformation radicale. Et puis, la pandémie, pour la plupart des gens, pour l'essentiel de la collectivité québécoise, canadienne, dans les grandes sociétés occidentales, ça a surtout été une expérience de mise en suspens des éléments les plus intéressants, agréables de la vie quotidienne, pour être enfermé dans son travail, dans l'expérience de la solitude et de la vie virtuelle, en attendant le retour d'un passé qu'on espère demeurer le futur, finalement.
Il y a 100 ans, Benjamin Boivin, de nouvelles formes politiques ont émergé. Vous parliez du 19e siècle, qui a vu vraiment certains grands empires européens se faisaient face. Il y avait l'Allemagne croissante, évidemment, l'Empire austro-hongrois, la France n'était pas non plus impuissante, la belle Empire britannique aussi, il y avait les Russes qui se réveillaient. J'hésite à faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. La Première Guerre mondiale met fin brutalement à tout ça. Il y a quand même l'Empire britannique qui survit, qui jusqu'au moins en 1947, l'indépendance de l'Inde. Mais il y a quand même... Aujourd'hui, il y a la Chine qui semble sortir victorieuse de cette pandémie. Mais encore une fois, je ne vois pas la fin d'un empire et le début d'un autre. Il y a beaucoup plus un fondu enchaîné aujourd'hui.
Oui, c'est évident que l'expérience qu'on vit est beaucoup plus subtile, finalement, que la Première Guerre mondiale. Malgré tout, on la vit d'une façon très concrète dans nos expériences particulières, dans nos manières d'expérimenter le quotidien. Mais c'est pas vrai que le monde est en train de s'effondrer, que les grands empires sont en train de mourir. Alors qu'après la Première Guerre mondiale, après la grippe espagnole, les grandes sociétés européennes se sont toutes profondément fragilisées, notamment au profit des États-Unis. Et puis ça, c'est une situation dont elles ne se sont jamais finalement...
Remise, oui.
Exactement, oui.
Côté culturel, évidemment, on arrive à la Première Guerre mondiale, c'est la fin d'une certaine Europe patricienne. Il y avait peut-être eu les révolutions de 1848, les révolutions démocratiques, mais il y avait quand même cette idée d'une vieille Europe monarchique, impériale, etc. Aujourd'hui, c'est fini tout cela. On est en pleine démocratie un peu partout démocratie en danger, mais quand même. Encore une fois, les régimes politiques ne semblent pas tellement ébranlés. On voit l'autoritarisme chinois se pointer très fortement, mais encore une fois, je vois mal un changement de décor brutal.
Mais c'est certain qu'à l'époque de la Première Guerre mondiale et puis aussi de la grippe espagnole, qui justifie peut-être encore davantage l'analogie, il y a d'autres changements importants qui s'opèrent. Dans les sociétés, dans la société britannique, par exemple, autour de ces années-là, c'est l'affaiblissement radical de l'aristocratie qui a été voulu et demandé, en fait, par les grandes institutions politiques britanniques. Et puis ça a eu des effets assez déterminants sur le devenir de l'Empire britannique. Vous avez parlé aussi d'autres transformations, du passage à une société justement plus aristocratique, à une société plus démocratique, ça s'accompagne de l'affaiblissement, voire de l'élimination des grandes monarchies européennes. On vit rien de semblable actuellement. Cela dit, certains pourraient souligner que dans les grandes sociétés occidentales, en ce moment, on assiste à un retour de l'État. On a déjà parlé un peu de ça il y a tout près d'un an maintenant. Le retour de l'État dans la vie quotidienne, dans l'expérience des gens. L'État est beaucoup plus présent, il exprime son autorité d'une manière beaucoup plus forte. Et puis certains vont se questionner, notamment ceux qui ont un penchant plus libéral, plus libertarien, sur le devenir de cette activité étatique une fois que la pandémie va s'être calmée, finalement.
On le voit d'ailleurs avec les démocrates aux États-Unis. L'État revient beaucoup plus en force avec Biden et son plan de relance, notamment.
Oui, tout à fait. Et puis, après tout, Biden était perçu comme un modéré depuis toujours. Biden a toujours été au centre de la vie politique américaine, au centre de son parti depuis les années 70. Et puis maintenant, le centre du Parti démocrate, il s'est tourné à gauche de façon assez radicale. Il est beaucoup plus facile de justifier des interventions étatiques assez intenses dans un contexte comme celui que nous vivons qu'à cette époque-là. Et puis là, c'est peut-être une analogie qui est pertinente entre l'expérience que nous vivons maintenant, mais plutôt celle de la crise de 1929 et puis du début des années 30 et puis finalement de la Deuxième Guerre mondiale, qui, elle, a justifié, notamment aux États-Unis, une intervention étatique beaucoup plus grave. Est-ce qu'on va assister à une renaissance culturelle comme celle qui avait eu lieu dans les années 20 ou celle qui avait eu lieu dans les années 50 dans une autre mesure? Il va falloir le savoir, parce qu'il y a d'autres facteurs de déliquescence dans notre société qui n'ont rien à voir avec la pandémie et qui les précédaient, finalement.
Quand vous dites déliquescence, Benjamin Boivin, voulez-vous dire décadence?
Ah ben, c'est un discours qui est de plus en plus courant. Hein. La pandémie probablement a facilité la justification de ce type de discours-là, mais de plus en plus, les auditeurs remarqueront, la présentation de futurs dystopiques dans la culture populaire est présente. On le voit au cinéma, dans la littérature. Oui. Et puis de plus en plus d'auteurs s'intéressent à cette manière-là de voir les choses. Les Américains, par exemple, avaient, dans les années 60, une perspective vers le futur qui était très optimiste, très idéaliste.
Ça, c'est vrai.
On était dans une perspective profondément utopique. Alors que maintenant, lorsqu'on pense au futur, dans la culture américaine au premier chef, mais également dans la culture européenne, assez peu sont particulièrement optimistes. Et ceux qui le sont, mais ils sont perçus un peu comme représentant une aile particulière ou une vision particulière de la société. On passera par exemple aux grandes élites économiques californiennes, qui malgré tout vivent dans leur chair actuellement des raisons de faiblir un peu de cet optimisme-là. Donc, la question de la décadence là, que certains auteurs, comme Ross Douthat, par exemple, le commentateur américain...
Qui avez-vous dit? Qui?
Le commentateur américain qui a écrit un livre l'année dernière super intéressant sur cette idée-là de décadence. Il réfléchit à la société américaine puis à la société occidentale et se pose la question de savoir si on n'était pas déjà, en fait, dans l'expérience de la décadence. Puis là, de façon intéressante, ce livre-là a été réédité cette année parce que pour cet auteur-là, pour Douthat, l'expérience de la pandémie en soi, ben, c'est une expérience qui est contre-décadence, finalement. C'est l'occasion pour l'Occident de faire face à un défi, d'essayer de le surmonter. Puis ça va être intéressant de voir ce que tous ces gens-là vont dire, finalement, de la capacité de la société américaine puis des grands pays européens à se sortir de la pandémie gagnant ou perdant.
Ross Douthat, Douthat, j'imagine. C'est pas lui qui avait écrit « The Decadent Society », la société décadente?
Oui, c'est exactement de ce livre dont on parle.
Et c'est pas lui aussi qui écrit dans le New York Times?
Oui, mais en fait, Ross Douthat est un personnage assez intéressant. Là. C'est la principale voix du conservatisme dans le magazine, dans le New York Times, le journal The New York Times,
oui,
qui est
très
connu.
Tout à fait.
La plupart des chroniqueurs d'opinion de ce journal-là sont plutôt à gauche ou plutôt au centre. Ross Douthat représente les conservateurs, mais d'une manière qui est tout à fait singulière. Là. Il est un catholique plutôt qu'un protestant. Puis il y a une perspective économique beaucoup plus populiste que la plupart des conservateurs américains qu'on connaît.
Oui, oui. Il y a aussi une grande différence, c'est qu'on ne parlait pas de crise climatique il y a 100 ans. Aujourd'hui, c'est dans toutes les consciences. Est-ce que ça, Benjamin Boivin, pour vous, c'est un facteur qui permet de différencier la sortie de crise que l'on va connaître et celle d'il y a 100 ans?
Je pense que c'est vraiment le facteur déterminant pour distinguer ces deux expériences-là, parce qu'après tout... Oui. Pour plusieurs, puis on verra dans les prochaines années si ça se vérifie dans les faits. Les projections, c'est un exercice parfois risqué. Mais pour plusieurs, la pandémie qu'on vit actuellement est liée à la crise climatique. Et puis la crise climatique nous promet une série d'expériences aussi pénibles les unes que les autres. Des crises sanitaires comme celle-là, des pandémies, mais aussi des événements naturels catastrophiques. Et puis l'incapacité ou le manque de volonté dans les élites politiques de nos sociétés à réagir à la crise écologique d'une manière aussi radical que nécessaire, risque de nous promettre des crises de ce genre-là dans le futur qui, finalement, cassent les reins d'un optimisme d'après-guerre qu'on avait pu connaître à la suite des deux grands conflits mondiaux dans le siècle passé.
Malgré tout, Benjamin Boivin, aujourd'hui, on a trouvé un vaccin en une année, même pas, même quatre vaccins, même plus, c'est imminent. Il n'y aurait pas eu ça il y a 100 ans. Je veux dire, on a vu un effort de concertation non dénué de concurrence et de nationalisme vaccinal ou scientifique. Mais il y a eu quand même, la communauté scientifique internationale s'est mobilisée, elle a travaillé d'arrache-pied et on a trouvé des remèdes en un rien de temps. Pour une pandémie de cette taille, on n'aurait pas eu ça avec la grippe espagnole.
Eh oui, ben c'est le contre-argument à la décadence le plus naturel, finalement. Après tout, la découverte de multiples vaccins très rapidement, le développement technologique dans le milieu médical qui s'en est suivi et qui va probablement continuer de s'en suivre dans les prochaines années est une expression tout à fait éloquente de la capacité de nos sociétés à réagir à des expériences traumatiques comme celle de la pandémie. Et puis, ce sont des motifs raisonnables d'espérer un avenir meilleur.
Justement, c'est ce que je pense. Y a plein, je vous jette plein d'idées comme ça, Benjamin, excusez-moi. Mais quand on traverse une crise, qu'elle soit radicale comme la Première Guerre mondiale, qu'elle soit également radicale comme la grippe espagnole ou plus diffuse comme la nôtre, la pandémie, c'est toujours l'occasion de retrouver le réel. Est-ce qu'on n'aurait pas péché par excès d'optimisme? Est-ce qu'on n'aurait pas péché par insouciance? Est-ce qu'on n'aurait pas péché par... Vous savez, quand on évacue le tragique de l'histoire, qu'elle soit individuelle ou collective, il revient par la porte d'en arrière pour nous agacer profondément et bon, carrément nous emmerder.
C'est pas faux du tout. Après la chute du mur de Berlin, après tout, au début des années 90, aux États-Unis en particulier, mais en Occident en général, on s'est mis à croire que la guerre c'était fini, que les difficultés c'était fini, qu'après tout, tout allait bien se passer, que les sociétés allaient se pacifier, pacifier leurs relations les unes avec les autres par le commerce. Et puis, il y a eu plusieurs motifs qui nous ont amenés à nous remettre en question sur cet optimisme-là ou cet utopisme-là, voire. Il y a eu le 11 septembre 2001 là, qui est venu frapper assez fort. Il y a eu également la montée des populismes dans les dernières années. Et puis là, cette pandémie-là nous fait finalement réaliser qu'on n'est pas sorti de l'histoire, qu'on vit encore dans la réalité, qu'il y a encore un caractère tragique à notre expérience et qu'après tout, on a fait preuve d'un certain hubris, finalement, dans les années 90, lorsqu'on a arrêté de voir la possibilité du malheur devant nous.
Hubris étant la démesure, l'orgueil
Oui, exactement. Une disposition à se croire capable de bien davantage que ce qui peut raisonnablement être espéré.
C'est le grand péché des Grecs anciens. Benjamin Bovin, il nous reste 3 minutes. Il y a une question qui me taraude, c'est que au sortir de cette pandémie, beaucoup vont être tentés de dire « business as usual », on va revenir aux affaires normales. Ma question, est-ce que nous avons encore le vocabulaire nécessaire, qu'il soit philosophique ou anthropologique, pour affronter le réel? On a l'impression que les gouvernements ont investi massivement pour maintenir les gens à flot, etc. Tout le monde s'est endetté comme tout, dans les États. Mais j'ai l'impression qu'on a voulu nier le caractère tragique de l'histoire et qu'on va sortir de cela, non pas renforcé, mais ramolli. Est-ce qu'on a, au-delà de ça, est-ce qu'on a encore des ressorts pour trouver le vocabulaire nécessaire pour faire face à la mortalité?
C'est la grande inquiétude. Après tout, puisqu'on a vécu cette crise-là d'une manière tellement virtuelle, tellement un peu déliée des conséquences les plus graves, finalement, là, notamment à cause de l'action de l'État, mais également à cause de notre capacité, via l'Internet, via les nouvelles technologies, à continuer de faire vivre la plupart des industries les plus essentielles de notre économie, de continuer le petit train-train quotidien, ça rend difficile d'être confronté aux éléments les plus tragiques, aux difficultés les plus hautes, mais également, finalement, à l'expérience de la grâce ou à contempler la beauté qui peut se trouver dans des expériences les plus difficiles.
Est-ce que vous, qui êtes de la génération des 20-30 ans, Benjamin Boivin, êtes-vous davantage concerné par ces questions que quelqu'un de ma génération, par exemple, moulé à l'ancienne louche? Vous êtes d'une génération qui va hériter d'un monde, je dirais pas en lambeaux, mais fortement endetté, désillusionné, etc. Nous, on appartient à un monde qui finit. Vous avez un monde qui va commencer, mais on ne sait pas trop comment.
C'est certain qu'on vit, les gens de ma génération vivent la pandémie et puis tout ce qui en sort d'une manière différente de ceux de la vôtre. Oui. Il est assuré qu'il peut être inquiétant de contempler toutes les misères qui nous sont promises par les experts les plus pessimistes les uns que les autres. Oui. Mais après tout, il faut garder confiance en l'homme, il faut garder confiance en notre capacité à confronter les défis sans faire preuve d'un excès d'enthousiasme qui nous aveuglerait devant les réalités de la misère humaine qui demeure les nôtres à travers les époques.
Il faut être comme Ulysse qui affronte les dangers avec ruse et humilité.
Oui, et puis avec une certaine joie, un certain enthousiasme malgré les épreuves.
Benjamin Boivin, merci beaucoup pour ce parallèle ou non entre ce qui s'est passé il y a 100 ans au sortir de la Première Guerre mondiale et de la grippe espagnole et avec ce qui se passe aujourd'hui, notre sortie de pandémie imminente. On vous retrouve dans 2 semaines.
Ça a été un plaisir, à bientôt.
Au revoir Benjamin. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-Patrice d'Irlande. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.